BO Hebdo, interview de Mathieu Gonnet, compositeur du film Madame de Amanda Sterz à l'affiche le 22 novembre. Alors, super partition. Donc, déjà, bah, à la base, la rencontre avec Amanda Sterz, comment a-t-elle eu lieu?
Elle a eu lieu par l'entremise du superviseur musical du film. On parlait tout à l'heure des superviseurs musicaux. Ils ont une vraie place, une vraie justification, même si c'est un métier qui est assez nouveau, si on peut dire, puisque ça a 10-15 ans. Et donc, c'est une fonction aujourd'hui essentielle dans la production cinématographique. Et donc là, effectivement, par l'entremise de Jeff Jenny, de l'agence Gloria, qui aujourd'hui a un rôle assez prédominant sur ce secteur, la rencontre s'est faite et le film est quand même un film cadeau pour un compositeur, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, il y a beaucoup de choses à évoquer, aussi bien l'univers bourgeois qui est décrit avec beaucoup de finesse par Amanda, que cette lutte des classes, mais le film n'est pas manichéen, je crois que c'est sa grande force.
Il y a ce raffinement des cordes. Comment justement la partition a été conçue? Est-ce que Amanda Sterz avait des indications très précises ou vous aviez carte blanche?
C'est un entre-deux, mon capitaine. On s'est parlé. C'est assez banal, mais généralement un compositeur fait une proposition et moi je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable dans ce métier. Certains vous diront que faire ce qu'on appelle un test, proposer une musique pour un film, c'est un peu quand on en a fait certains, quand on a commencé à faire quelques BO. Voilà, je sais qu'il y a des compositeurs qui ne veulent pas le faire. Moi, je trouve que il y a pas de honte à proposer des choses, puisque en fait, une musique de film, c'est aussi une rencontre avec son réalisateur ou sa réalisatrice. En l'occurrence, là, donc, j'ai proposé un thème, et puis un second, et puis voilà, elle m'a fait le grand cadeau de sa confiance.
Alors, Amanda Sterz est écrivaine à la base. Le film est très écrit, beaucoup de dialogues. Hein. Il y a quelque chose vraiment de très littéraire dans le film. Et très souvent, le littéraire s'oppose au musical. Alors que là, le film est aussi très musical. Alors comment ce film très écrit, très dialogué a pu accueillir la musique dans ces moments de dialogue, justement?
Alors déjà, il y a un métier dont on parle peu, mais c'est les gens qui font le son dans la musique de film, parce que c'est quand même essentiel. Hein. Il n'y a que deux ressentis, le visuel et l'auditif. Et c'est vrai que donc là, il y avait un ingénieur du son qui est formidable, qui s'appelle Vincent Cosson, qui a signé le son du film dans son entier. Donc ça, c'est un travail d'intrication qui est très compliqué, parce que on parlait hors micro de ce fameux dîner qui est la pierre angulaire de la narration du film. Et ce dîner, on passe de discussions entre convives et la musique est tâche de se faire une place aussi discrète que sous-jacente. Et le travail du son est là essentiel, aussi bien le son de la musique. J'ai tendance à travailler très souvent avec Nicolas Duport, qui est un ingénieur du son que j'aime beaucoup, mais surtout le son du film qui fait beaucoup. Alors, ce sont des vastes sujets de compositeurs, à savoir, est-ce qu'on entend suffisamment la musique, est-ce qu'on entend trop les dialogues ou trop les bruitages. En tout cas, c'est une des forces du film aussi, c'est un univers sonore qui me semble assez réussi.
Et Amanda Sterz, donc connue pour ses livres, moi je la découvre grande cinéaste, puisque visuellement, en fait, à des moments, elle travaille la profondeur de champ. Il y a Rossi de Palma dans la cuisine, par exemple, et on voit par la fenêtre de la cuisine ce qui se passe dans le jardin. Donc cette profondeur de champ est très très étonnante, très travaillée au niveau de la composition visuelle et musicalement. Enfin, dans le son, il y a également ça. Il y a différents niveaux. On entend un dialogue et on entend hors champ les convives d'à côté et la musique qui s'imbrique là-dedans. Tout cela est conçu en fait au montage, ou alors vous êtes intervenu à la fin et vous avez rajouté votre musique. Enfin, comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé en cours de montage. C'est vrai que le chef-op sur le film est merveilleux. Le film aurait pu être simplement esthétisant et être une espèce de chose un peu ennuyeuse, décrivant une forme de bourgeoisie américaine. Ce n'est pas le cas, donc il y a une très belle photo dans le film, ce qui est très inspirant pour un compositeur. En fait, ça s'est passé d'une manière assez usuelle, c'est-à-dire que je recevais les séquences les unes après les autres en cours de montage, donc c'est toujours le grand plaisir du compositeur de voir qu'il y a quelques secondes de rajouter, d'enlever, alors qu'on a quasiment tout fait. Mais ça, c'est la règle du jeu, et ça fait partie du métier. Mais effectivement, je recevais les scènes les unes après les autres, et en fait, personnellement, moi, je ne compose jamais en posant des questions de l'objet musical. La question est toujours de savoir qu'est-ce que la musique va raconter, est-ce qu'elle doit être présente, est-ce qu'elle doit être sous-jacente, est-ce qu'elle doit être primordiale ou juste accompagner un sentiment, et la grande question, doit-on en mettre ?
Et la question du flamenco, les sonorités espagnoles liées à Rossi de Palma, c'était votre intention ? Comment vous avez donc composé cette partition, cette partie de la partition ?
L'idée, c'était de ne pas tomber dans un truc un petit peu Almodovar, parce que c'était c'était un peu la facilité avec la présence formidable de Rossi de Palma, de tomber un petit peu dans une partition qui aurait pu évoquer ça. Donc il y a quelques relents effectivement espagnols, notamment sur une scène. Le reste, c'est la présence, je pense, de la guitare nylon qui donne cette impression. Moi, je voulais partir sur une valse lente qui est jouée soit au piano, soit à la guitare. Donc, il n'y a absolument rien d'original en cela. La seule chose, c'est que je voulais que cela soit un thème très simple et que l'on rencontre tout au long du film. Et l'Espagne vient avec cette guitare.
Madame, musique de Mathieu Gonnet, notre invité, magnifique partition. Alors, je parlais de flamenco, il y a aussi, oui, des airs de guitare dans le film. Et là, c'est du bandoneon, et on pense même davantage à du tango argentin.
C'est vrai, il y a des petits relents d'Amérique du Sud par moment. Et là, le thème qu'on vient d'entendre, il est joué par un instrument que l'on met rarement en valeur en soliste, c'est l'alto, le violon alto. Moi, j'ai une bonne raison de le faire, c'est que j'ai épousé une altiste. Donc, forcément...
Faut faire travailler, c'est ça ?
Oh non, elle n'en a pas besoin parce qu'elle mène une carrière formidable, mais effectivement, j'ai la chance de pouvoir exprimer cet instrument que j'adorais même avant de la rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai composé une musique pour un film qui s'appelle Fleur de tonnerre avec Déborah François et Benjamin Violet, où effectivement la partition est dédiée à l'alto. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais ce n'est pas un choix, comment dire, marital, c'est un choix parce que c'est un instrument qui évoque la voix humaine. Et là, en l'occurrence, il y a quelques extraits dans Madame, où on retrouve cet alto dans une forme complètement différente. Et donc voilà, je voulais la saluer parce que, outre être une épouse formidable, elle a un talent de dingue.
Super. Et il y a aussi, on voit aussi de la musique jouée à l'image dans le film. Il y a cette scène de concert avec violoncelle et piano. C'est un air de Antonin Dvorak. Vous avez arrangé ce morceau, c'est ça que...
Alors en fait, effectivement, pendant ce dîner, pour expliquer aux éditeurs, il y a un jeune enfant prodige pianiste qui est là, et il y a son maître, un violoncelliste qui est là, qui ne parle pas français, qui est censé être chinois, je crois, et ils vont interpréter tous les deux une pièce de Dvorak, et donc avec Eric Zornietzky qui interprète à l'image, mais aussi au son. On a enregistré en amont cette réinterprétation, si j'ose dire, de Dvorak, mais tout est quasiment là de ce grand maître, et c'est une il a fallu réadapter afin que tout puisse se suivre après à l'image dans les conversations, parce que Tony Collette reparle avec Rossi de Palma, et c'est la fin d'une séquence qui dure plus longtemps que la pièce de Dvorak en elle-même. Et c'est ce qui est passionnant dans notre travail de musicien, c'est de musicien pour l'image, c'est de retravailler aussi bien ses œuvres, mais d'accompagner la narration même sur les musiques des autres.
Donc vous êtes impliqué donc sur cette musique préexistante d'Ove Dvorak qui est interprétée dans le film, mais il y a aussi William Scheller en ouverture du film, Briag Mariani, ça vaut la peine l'amour en chanson de fin. Est-ce que ce sont des choses qui se font sans vous ou alors vous êtes aussi intervenu là-dessus?
Généralement, ce qu'on appelle les synchros, sont rarement, c'est pas trop le rôle du compositeur d'intervenir dessus. Alors ça peut être le cas dans certains films s'il y a des synchros, si la musique originale doit s'enchaîner avec la synchro, on fait en sorte généralement que la tonalité soit proche ou qu'on ne passe pas de choses qui n'aient rien à voir. C'est dans ce cas-là que le compositeur généralement intervient. Je dis le compositeur de manière générale parce qu'en parlant avec mes collègues, je crois que c'est souvent, enfin si on voulait faire une généralité, c'est ça. Non, sinon, effectivement, là, le Scheller en ouverture, c'est une chanson... le refrain dit « Donnez-moi madame, s'il vous plaît », etc. Mm. Donc voilà, Amanda tenait à voir cette chanson qui met un peu la patate dès le générique. C'est souvent le cas, les réalisateurs ou les réalisatrices qui choisissent leur synchro.
Et puis on remarque encore l'écrivaine derrière Amanda Sterz quand elle convoque des chansons pour la signification de son texte, quelque part. Également.
Absolument. De toute façon, Amanda, c'est toujours un peu difficile de dire du bien des gens avec qui on a travaillé parce que ça paraît obséquieux, mais Amanda a cette grande force de ne rien laisser au hasard et tout est soigné dans son film. Et on dit que généralement, quand tout a l'air simple, c'est que c'est réussi. Et je peux vous dire que... Ça a l'air simple, mais chaque chose à l'image comme au son est le fruit d'une vraie réflexion.
Alors on a évoqué pour Madame le dialogue, cette séquence du dîner, on a évoqué la touche espagnole avec Rossi de Palma, mais il y a aussi l'histoire d'amour, c'est presque même le fil rouge du film, c'est cette histoire d'amour, cette rencontre lors du dîner qui va se prolonger jusqu'à la fin du film. Quel est votre rapport à l'émotion musicalement? Est-ce que comment musiquer, on va dire, cette histoire d'amour?
J'ai toujours l'impression qu'il faut que traiter de l'amour dans la musique de film, c'est comme rajouter du sucre sur la chantilly. Donc c'est un grand travers. Donc sur certains films mainstream, des films très grand public sur lesquels on nous demande sans vergogne d'appuyer sur le champignon. Dans ce cas-là, c'est très chouette. C'est très chouette. C'est une facilité très agréable. Sur d'autres projets où les sentiments sont plus à la disposition du spectateur, c'est vrai que c'est un travail de réflexion, à savoir que il ne faut pas mettre du sucre sur la chantilly. Et c'est très agréable de travailler plutôt sur la légèreté des sentiments que sur leur profondeur.
Légèreté des sentiments, ne pas mettre du sucre sur la chantilly, eh bien on va l'entendre dans Madame, ce piano épuré, l'épure donc pour l'histoire d'amour. Thank you. jusqu'à la dernière note de Madame, musique magnifique de Mathieu Gonnet.
Merci beaucoup.
Je parlais du piano épuré donc pour cette histoire d'amour, mais comme on l'a entendu, il y a du lyrisme également, un final, c'est le final du film, plein d'émotions, donc vous avez aussi joué le lyrisme. Hein. Il n'y a pas de retenue non plus à ce moment, à ce niveau-là.
Oui, mais le truc, c'est que sans spoiler le film, la dernière scène est quand même... n'est pas représentatif de l'ensemble du film. Donc c'est pour ça que cette musique pouvait se permettre ça. Sur ce plan qui, je trouve, est, on parlait du chef-op, enfin de la photo du film, qui est vraiment absolument sublimissime, qui est éblouissant aussi par la beauté de Rossi de Palma, et la musique, à mon sens, pouvait se permettre ces élans.
Et je trouve que ça aurait été dommage de se priver de cet élan lyrique, hein, qui est aussi la beauté, le charme d'un film, d'aller jusqu'au bout, on va dire, de finalement l'intention du film, qui était de faire exister cette histoire d'amour.
Alors moi j'ai une théorie, mais une théorie de vieux CON, c'est-à-dire que j'écoute tout ce qui sort en musique de film, et donc j'ai abonné depuis, alors c'est pas pour faire de la pub, puisque je paye mon abonnement, mais abonné à Qobuz depuis très longtemps, j'écoute tout ce qui sort en musique, et à chaque fois, je me rends compte qu'en musique de film, que ça soit un gros blockbuster américain ou le dernier film, je ne sais pas, hongrois ou espagnol, a fortiori français, quand vous passez les titres les uns après les autres, ça commence par une tenue. Et en fait, vous avez l'impression que vous écoutez tout le temps la même musique de film. Ça commence par une grande tenue de corde ou une grande tenue de nappe. Et puis, 20 secondes, 30 secondes après, on commence à avoir une ébauche de thème. Et au bout d'un... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en dehors de quelques compositeurs, les compositeurs ont peur de mettre de la musique, les réalisateurs ont peur de mettre de la musique, qu'à voir comment c'est mixé, ça rentre toujours, la musique rentre tout doucement dans le film. Et il me semble qu'il ne faut pas avoir peur de la musique de film et qu'il faut au contraire s'amuser là-dessus.
Et donc Amanda Sterz n'a pas eu peur de ce final lyrique et on est ravis puisqu'on a pu vous diffuser cette musique.
C'est très gentil.
Alors vous êtes aussi, on peut dire, parfois on colle des étiquettes sur les compositeurs, vous avez très longtemps été étiqueté comédie. Vous avez signé la musique des Profs 1 et 2, de Touchous avec José Garcia, de Joséphine. Peut-être sur le papier, au départ, vous disiez que Madame était une comédie, même si ça va bien au-delà. Est-ce que vous l'avez, au départ, abordé comme une comédie? Et puis, une question plus large, composer une musique d'une comédie, est-ce que c'est pas spécial? Est-ce que...
Non, mais c'est assez étonnant. Parce que moi, les étiquettes, je dois avouer que je suis un porteur d'étiquettes assez important, puisque j'ai fait de la télé, notamment sur TF1, pendant un bon bout de temps. Donc, le milieu du cinéma étant un milieu assez snob, il faut du temps pour enlever ses étiquettes avant de se refaire une virginité musicale. Donc là aussi, c'est un... Je remercie encore Jeff Génie d'avoir eu confiance en moi, et puis certains réalisateurs qui m'ont donné la possibilité d'enlever ces étiquettes et de venir faire de la musique avec eux. Effectivement, la comédie, c'est un art considéré comme mineur dans la musique de film. Surtout des comédies qui marchent, c'est vraiment... c'est pas bien, faut pas aller faire ça, quoi, puisque c'est pas là où on va pouvoir faire le grand thème du 4. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même que les compositeurs de musique et de film parfois se prennent très au sérieux. Et tous les matins, quand je me lève, je me dis que j'ai une chance incroyable de faire ce métier-là, de pouvoir travailler au service d'un film et de pouvoir travailler au service du rêve, parce que l'on s'amuse, que l'on pleure ou qu'on ait peur ou qu'on voyage, le cinéma est un art complet et qui doit transmettre toutes les émotions.
Donc Madame vous permet de sortir de cette étiquette pure comédie, mais vous allez bientôt y revenir, et je vous remercie de ce cadeau que vous allez nous faire, puisque vous avez signé la musique du nouveau film d'Alain Chabat. Et Alain Chabat, comme on le sait, est un maître de la comédie, et là c'est Santa et Compagnie, sorti le 6 décembre prochain, une comédie familiale avec Audrey Tautou, Bruno Sanchez et Alain Chabat lui-même. De quoi s'agit-il? On peut parler d'un film de Noël, par exemple?
Ah là, je crois que l'exemple, oui, c'est vraiment un film de Noël. C'est un grand cadeau que m'a fait Alain en me confiant les rênes, sans mauvais jeu de mots, de la musique de son film. Ça raconte l'histoire du Père Noël qui a un problème avec ses 92 000 lutins qui sont tous tombés d'un coup. Et il va devoir trouver de la vitamine. Il prend son traîneau, il y a un problème, il arrive à Paris. Et en fait, ce qu'il connaît des enfants, il les connaît quand ils passent le soir du 25 décembre. Ils sont tous endormis, les cils tous bien rangés. Et ils sont absolument charmants. Sauf que là, il arrive, il y a une tempête. Il débarque à Paris par accident et il arrive en plein cœur de Pigalle. Il gare son traîneau et bien évidemment, le film laisse imaginer, je vous laisse imaginer la suite. Je trouve que c'est le grand retour d'Alain Chabat avec une comédie familiale absolue. C'est le film multigénérationnel par définition. C'est une vraie invitation au rêve et au rire. Alors, pardonnez-moi, parce que j'ai eu la chance d'en signer la musique, mais je suis père de deux enfants et je dois avouer que si je n'avais pas fait la musique, le 6 décembre, je serais à la première séance pour les emmener.
Ah oui. Et pour Santa et compagnie, est-ce que la musique est plutôt dans un melting pot, quelque chose de kaléidoscopique ou plutôt quelque chose de lien, d'un thème qui va unifier le tout?
Oui, oui, tout à fait. C'était la demande d'Alain Chabat, c'était effectivement d'avoir un thème. D'avoir le thème du film, voilà. Donc il y avait plusieurs pistes évoquées. On a toujours des références, il faut en avoir. Donc Michael Giacchino était par exemple une de celles-ci.
Qui fait des films de Pixar, notamment.
Exactement. Grand compositeur, grand talent et homme à l'égal de son talent. Et voilà. Et donc il a fallu trouver le thème, quelques propositions. Il me semble qu'on a trouvé celui qui lui plaisait. Et après, la partition est une partition vraiment un truc très symphonique. On a enregistré avec un très grand orchestre. J'ai eu la chance de découvrir un orchestrateur formidable, parce que normalement j'orchestrais tout seul. Et là, effectivement, l'union fait la force. Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean Stéphane, qui est un musicien extraordinaire. C'est un type qui a une connaissance de la musique de film quasiment. Alors, il vous plairait beaucoup. Il faudrait que vous le receviez ici, Benoît, parce que c'est quelqu'un qui a orchestré beaucoup beaucoup de films. Et donc voilà, j'ai travaillé avec lui et un grand orchestre et un grand réalisateur. C'est un souvenir inoubliable.
Santa et compagnie, alors Noël avant l'heure, merci Mathieu de ce cadeau, musique de Santa et compagnie que vous avez écrite, sortie du film d'Alain Chabat le 6 décembre. Santa et compagnie, magnifique, trépidante, comme on l'a entendu. Bon, pour ce film de Alain Chabat, sorti le 6 décembre, musique de Mathieu Gonnet, qui était donc notre invité. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, allez voir Madame, sorti donc le 22 novembre de Amanda Sterz, avec cette nouvelle partition donc de Mathieu Gonnet.